Bonjour, c'est Olivier de Funès. Chronozone, le temps immédiat.
Les Roms Clément, partenaire On The Rocks de Diomandel Programme. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Chronozone présente Diomandel Programme.
Now give me a beat.
Toute l'histoire de la télévision française entre actu et nostalgie. Wake up. Depuis Los Angeles, la vision hebdomadaire d'un télévore à l'œil unique. Entre séries cultes et héros éternels. Let's go. 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion. Le petit écran en ligne de mire. Ou quand les pages de récréado prennent voix. DLP, c'est maintenant. Diomandel le programme.
DLP vacances. DLP vacances.
209 pays et territoires écoutent DLP Vacances. Un immense merci à ceux de nos 1 202 739 auditeurs français et francophones en moyenne hebdomadaire, de Biélorussie et de Guinée-Bissau, dont nous saluons la fidélité sans faille. Salut, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP Vacances, votre hebdo radio média qui certes colle à celle de la France, mais dont les passionnés de télévision dans le monde entier raffolent en toutes circonstances. 3, 2, 1, let's go! Ce lundi 31 juillet 2023 marquera le 109e anniversaire de naissance de Louis de Funès, génie planétaire de la comédie théâtrale et cinématographique avec lequel nous ouvrîmes Sea, Sex and Fun le 7 juillet dernier avec Les Grandes Vacances. Entre cette jolie date, l'année des 40 ans hélas de son injuste disparition et notre invité de la semaine, sa filmo ne pouvait qu'être de retour dans cet épisode balnéaire. Dans la famille région, je demande le VAR. Dans la famille profession, je demande le gendarme. Et dans celle commune, je demande Saint-Tropez. Prenez un réalisateur fétiche de Louis, Jean Giraud, un compositeur fétiche, Raymond Lefebvre, donnez à Louis un terrain de jeu à sa démesure et vous serez alors certain de ne vous être trompé.
Merci mon Dieu, merci. Ça va barre de là-bas.
Vous l'aurez compris, le gendarme de Saint-Tropez est donc notre quatrième dossier Sea, Sex and Fun de l'été de l'hémisphère nord. Lui est avant tout chercheur en biologie moléculaire, spécialiste de la recherche et la lutte contre la mucoviscidose, que l'on sait meurtrière. Mais il est également, depuis son plus jeune âge, un véritable accro à l'œuvre et au personnage de Louis de Funès, au point d'en créer quasi quotidiennement de nouvelles doses salutaires. Plus de 2 300 000 amateurs du Grand Louis ont rejoint son efficient Facebook Just Louis de Funès, où l'on savoure chaque jour davantage situations extraites des films du Démiurge, tout en finesse. Grâce à son père, la passion il tient. De Louis de Funès, il entretient le terreau mémoriel, à l'instar du musée éponyme de Saint-Raphaël.
Bonjour, c'est Sébastien Thérault, fondateur de Just Louis de Funès. Bienvenue dans Diomandel le programme.
Just Sébastien Thérault est l'invité tout en finesse de DLP Vacances. Auparavant, retour sur la comédie balnéaire de Jean Giraud, ayant eu véritablement lancé la carrière nationale de Louis de Funès sans qu'il ne se fût plus jamais trompé, le gendarme de Saint-Tropez.
Oh oh oh, je suis muté dans le Var avec un galon de plus. Maréchal des logis-chefs.
Sacré maréchal des logis-chefs Ludovic Cruchot. Il avait beau avoir pour supérieur l'adjudant Gerbert, au sein de la brigade de pied-niquelé où sa hiérarchie l'avait fraîchement promu, l'on aurait dit que le mythique village balnéaire varois et sa gendarmerie lui appartenaient tout entier.
9 procès-verbaux entre le port ici, vous n'avez pas perdu de temps, oui. Mais le temps c'est de l'argent, mon adjudant.
Oui, oui. Mais c'est la voiture de monsieur le maire.
Il faut dire qu'à peine arrivé sur les lieux, le zélé gendarme n'y va guère de main morte quant à la stricte application de la loi, ce qui le rendra aussi antipathique aux yeux des habitants et d'une partie de ses collègues que presque sympathique à ceux de son supérieur hiérarchique. La fille de Cruchot, Nicole, n'hésite à s'inventer un père américain et milliardaire mouillant au port afin d'impressionner la jeunesse locale et de plus facilement s'y intégrer.
Mon père est milliardaire et j'habite sur son yacht. Oh. Je n'ai pas l'habitude de fréquenter n'importe qui. Mon père s'appelle Archibald Ferguson.
Mais c'est sans compter la rigueur de son petit fonctionnaire de gendarme de père qui, entre le vol d'un Rembrandt, la traque de nudistes rompue à l'exercice de la dissimulation.
Les nudistes, où sont-ils?
Des nudistes? Quelqu'un a vu des nudistes ici?
Vous prenez vos désirs pour des réalités, gendarme.
Et son attitude obséquieuse à l'endroit de Gerbert a effort à faire. Cette comédie portée par Louis de Funès aura 60 ans l'an prochain et pas une ride pour autant. Avec sa brochette de second rôle, au rang desquels Jean Lefebvre.
Tu veux que je te dise, Albert ? Eh ben, les vacances, elles sont foutues.
Geneviève Grade.
Est-ce que je porte la dernière mode à Hawaii ?
Christian Marin, Maria Pacôme, je l'adorais. Guy Grosso et Michel Modot, Nicole Verville, Claude Pieplu, France Rumilly, coucou sœur Clotilde, et évidemment Patrice Lafont.
Mais vu le bateau, vu la fille, je suis partant pour la mode hawaïenne. Elle va faire fureur !
Cruchot, also known as Archibald Ferguson, se démultiplie dans les délires, cependant qu'il nous plie de rire.
Ça va plus de faire mon marché, vous savez, la petite popote sur mon yacht, de laver les 6 voitures pour me détendre. C'est follement gris, vous auriez réveillé.
Les jeunes flirtent et sont beaux, les gendarmes pleurent et sont beaufs, et les nudistes leurrent et font des précédents des veaux. Une BO signée Raymond Lefebvre, une chanson originale composée par celui-ci sur des paroles d'André Pascal et une interprétation de Geneviève Grade, y a pas à dire, même 60 ans plus tard, le maréchal des logis-chefs Cruchot en prend encore pour son grade.
Douyou Saint-Tropez. Douyou Saint-Tropez.
Et quand revient l'été à Saint-Tropez, tous les garçons sont beaux à Saint-Tropez.
Nous, en France, nous en avons beaucoup de comiques, mais qui ne sont pas dirigés. Quand même, c'est très petit le nombre de comiques. Dans le monde entier ou dans les pays, c'est très petit.
Bonjour Sébastien Thérault.
Bonjour David.
Merci d'avoir accepté l'invitation de DLP.
Ben, c'est moi qui vous remercie, Naya et toi. Toute occasion est toujours bonne pour parler de Louis de Funès, donc j'en profite.
Même si nous sommes aujourd'hui le week-end du vendredi 28 juillet et que te voilà déjà de retour à Paris, au moment où nous enregistrons, il me semble que tu es à Dublin, en Irlande.
En effet, je suis à Dublin, en Irlande, pour le travail.
Je t'ai découvert une fois de plus grâce à ma chercheuse d'or, Naya, qui déniche les pépites pour nous sur le net. Tu es donc un jeune passionné du grand, du plus grand, devrais-je dire, Louis de Funès.
En effet, alors pas si jeune que ça, j'ai 35 ans.
Tu es un gamin, dit-il du haut de ses 15 ans de plus.
Mais effectivement, je suis né après la mort de Louis de Funès, j'ai pas eu la chance de le connaître vivant.
Eh oui, c'est ça qui est beau.
Mais oui, je suis un admirateur depuis toujours. Il faut rendre à César ce qui appartient à César.
Tu veux dire à Don César.
Yeah, à Don César, ce qui appartient à Don César.
Don César, comte de Garofa. Le comte de Garofa.
Et j'ai hérité de la passion de Louis de Funès, de mon père. Dès mes premières années, la voix de Louis de Funès résonnait déjà chez moi à travers le poste de TV. Et le culte de Louis de Funès n'a jamais faibli. Et au cours des années, les soirées chez moi se résumaient souvent à « Qu'est-ce qu'on regarde ce soir ?»« Bah, je sais pas, un Louis ?» Ok, c'est parti.
Alors précisément, avec près de 2,5 millions de fidèles en moins de 3 ans pour Just Louis de Funès sur les réseaux sociaux, que ressent donc son fondateur, même pas encore né, lorsque le grand Louis nous quitta le 27 janvier 1983 ?
Bah, un peu de fierté hein, quand même, d'avoir monté des vidéos qui ont suscité l'attention.
Ouais.
Parce que c'était le but, hein, la base, de partager ma passion pour Louis de Funès.
Non, c'est...
Et c'est toujours mieux de la partager avec le plus grand nombre possible.
C'est clair.
Donc j'en suis quand même un peu fier. Ce qui marche le plus, c'est ce qu'on appelle en bon français du newsjacking.
En anglais, on n'a pas idée.
Je suis pas doué pour les langues. Tu vas le devenir.
C'est réagir à l'actualité.
Ouais.
En faisant réagir tout simplement Louis de Funès à l'actualité.
En personne.
Voilà, c'est ça. Donc c'est sûr que ça prend du travail entre trouver les extraits d'actualité et aller disséquer chaque micro-séquence de Louis de Funès dans chaque film. Vu que j'ai une admiration totale pour Louis de Funès, regarder même 1000 fois la même séquence ne me dérange pas. Donc...
Ce sera lui, mon bâton de vieillesse.
Pour pouvoir à ce point maîtriser cet art du newsjacking, c'est que tu connais véritablement sur le bout des doigts moindre de ses répliques.
Et c'est, ouais, c'est vrai. Bah, je pense qu'en fait, c'est un peu comme une seconde langue maternelle, vu que j'ai toujours connu Louis de Funès en même temps que j'ai appris ma langue maternelle, le français.
Ouais.
Et Louis de Funès a toujours été là à travers ses films et on a toujours parlé de Louis de Funès chez moi et spécialement avec mon père. Ça a fait que j'ai pas l'impression d'avoir de difficultés pour aller chercher tel ou tel extrait dans la filmographie de Louis de Funès.
Est-ce que tu fonctionnes, si je puis dire, pour Just Louis de Funès avec la majeure partie de ses grands classiques, qui se résument pour le coup à une vingtaine de chefs-d'œuvre, ou est-ce que tu vas puiser jusque dans le reste des 4 autres dixièmes, recelant sans doute des pépites qui nous échappent à nous qui ne connaissons la quasi-totalité de sa filmographie?
Bah, c'est vrai que l'essentiel, je le prends, on va dire, 35-40 films.
D'accord.
Mais il y a effectivement, comme tu dis, des pépites de films des années 50 dont les films sont très mauvais, mais dont l'apparition de Louis de Funès est souvent très bonne.
Et oui.
Et donc il y a des extraits à aller chercher même à ces moments-là.
C'est incroyable. Et alors pour le coup, ça signifie que tu peux t'enorgueillir de connaître parfaitement la quasi-totalité de son œuvre.
C'est vrai, ouais.
Y compris ses apparitions à l'époque muette ou peu travaillées sur le plan des mimiques.
Et ces films fin des années 40 et dans les années 50, c'est des films que j'ai découverts plus tardivement.
D'accord.
Après 20 ans, on va dire. C'est pas vraiment des films que je regardais quand j'étais plus jeune.
C'est ça, forcément. Soyons honnêtes, d'autant qu'en plus, la télévision n'avait aucune raison de s'y intéresser.
C'est des films que j'ai ensuite découverts sur Internet. Et donc effectivement, à chaque fois, j'allais chercher l'apparition de Louis de Funès dans le film. Je le trouve bon dès le début, même si dans certains films, on le sent bridé. Lui-même le disait.
Ouais.
Ce premier film, La Tentation de Barbizon, où il fait absolument aucun effet comique.
Là, il a 100 pouces, celui-là, aujourd'hui.
C'est ça.
Il disait que dans les rushs, il avait tenté un effet comique et que le réalisateur avait dit « Non, non, tu vas pas me faire ça ».
Et ouais, c'est ça.
Et du coup, dans certains films de la fin des années 40, début des années 50, on le sent extrêmement bridé parce que le réalisateur, Louis de Funès, a pas l'envergure qu'il a, donc il peut pas faire ce qu'il veut.
C'est pas évident, hein.
Mais on sent que parfois, on lui lâche un peu la bride et il y va, quoi. Il a toujours eu ce fond comique.
C'est génial.
Et à partir de Pouic Pouic, il explose vraiment.
Oh, tu fais plaisir. Tiens, si nous adressions maintenant ensemble un amical clin d'œil à Patrice, ton papa, responsable, je mets des guillemets, mais quand même, de ta passion funésienne et non funeste.
Ben c'est tout à fait ça, hein. On en parlait précédemment ensemble. Faut rendre à Don César ce qui appartient à
Don César.
Et j'ai hérité de la passion pour Louis de Funès de mon père. Il a toujours eu la passion, lui, il a eu la chance d'aller voir certains de ses films au cinéma.
Au cinéma, voilà.
Et ensuite, à travers le poste de TV et le magnétoscope, qui a eu la chance de regarder un grand, grand nombre de Louis de Funès. Et Louis de Funès, donc, résonnait chez moi.
Tu nous rappelles d'où tu es ?
Alors moi, je suis de Beaune, en Bourgogne.
Très bien.
Ah, c'est joli. C'est très joli. Vous êtes bien ici.
Et donc, la voix de Louis de Funès résonnait déjà chez moi dès mon plus jeune âge. Je peux pas donner un point exact de quand j'ai regardé pour la première fois.
On peut considérer que tout ça a dû naître aux environs de tes 5-6 ans.
Voilà. Ensuite, on les a regardés ensemble, donc à partir de cet âge-là de conscience,
ouais.
De manière hebdomadaire, hein, minimum un film par semaine.
Ok, c'est important que tu le dises, parce que ça signifie qu'en fait, vous sortiez du carcan de la programmation cathodique.
Ah oui, c'est ça.
Pour avoir vraiment un rituel lié aux cassettes VHS.
C'était pas suffisant pour nous d'attendre les rediffusions, surtout que j'ai quand même grandi à une époque où il n'y avait que 6 chaînes.
Mais oui.
Il n'y avait pas non plus tout le temps des Louis de Funès à la télévision. On avait une quarantaine de films en VHS et dès qu'une soirée, on ne savait pas quoi faire. Donc souvent, les soirées chez moi se résumaient à « qu'est-ce qu'on regarde ce soir ?» Bah, je sais pas, un Louis, ok.
Oui, on trouvait la bonne excuse, quoi.
Voilà, c'est ça, c'était toujours une bonne excuse pour regarder un Louis de Funès.
Alors là, on va devenir sérieux 2 secondes, tout en essayant de rester évidemment dans le ton du rire et du sourire que tu nous apportes depuis déjà quelques minutes. 2 mots de ton activité professionnelle, celle-là même qui t'aura donc conduit à aller en Irlande durant ces 6 derniers mois, activité qui est aux antipodes de la comédie, quoique, car visant à nous garantir de pouvoir continuer de rire, et là, pardon pour le jeu de mots, mais à plein poumon.
J'ai une autre passion que celle que j'ai pour Louis de Funès, c'est une passion pour la science. Et ça, pour le coup, j'en ai fait mon métier. Je suis chercheur en biologie moléculaire.
Incroyable.
Ah non, pas de piqûre, hein ! C'est impossible ! Le médecin me l'avait promis !
C'est lui qui les a ordonnés ?
Mon Dieu !
Et actuellement, je travaille à trouver des solutions thérapeutiques pour répondre aux problèmes que pose la mucoviscidose, donc maladie qui touche particulièrement les poumons.
J'en ai des frissons parce qu'il y a encore quelques semaines, nous avions le bonheur et l'honneur de recevoir Laurence Lemarchal le week-end du vendredi 12 mai dernier, précisément dans le cadre d'une émission qu'on avait intitulée « Grégory, il aurait eu 40 ans
mmh. »
puisque Greg était né donc le 13 mai 1983 et aurait dû pouvoir donc fêter cette année avec nous sa 4e décennie si, hélas, la mucoviscidose ne l'avait emporté. Donc tu fais partie de ces personnes qui essayent d'améliorer la vie des 7500 autres patients français atteints comme l'était Greg de la mucoviscidose. Entre autres, hein, parce qu'il y en a dans le monde, hélas.
Ouais, c'est ça. On essaye, par l'intermédiaire de la thérapie génique, laisser les cellules reproduire par elles-mêmes la protéine qui est défectueuse dans la maladie qui est la mucoviscidose, qui est la protéine CFTR. Cette protéine n'étant plus fonctionnelle, d'obliger les cellules à la produire de nouveau via thérapie génique.
D'accord. Et on est bien d'accord que c'est hélas donc cette protéine défaillante qui fait qu'il y a un excès permanent de mucus, ce fameux mucus trop épais pour pouvoir permettre aux poumons de bien fonctionner, entre autres, j'essaye de schématiser.
C'est ça. La protéine est logiquement responsable du transport des ions sodium.
Désolé d'être un peu technique pour nos auditeurs, mais je suis sûr qu'ils sont passionnés par ce que tu es en train de raconter, quoi.
Et du coup, comme les ions sodium ne peuvent plus être transportés au travers de la membrane cellulaire par cette protéine parce qu'elle est défectueuse, eh bien, le mucus n'est pas normal. Il est beaucoup plus épais chez les malades atteints de la mucoviscidose et il entraîne des infections sur infections et c'est ce qui finit par endommager irrémédiablement les poumons.
Les poumons, d'accord. Comment le chercheur en biologie moléculaire Sébastien se transforme-t-il en le dénicheur du meilleur du terreau du grand Louis de Funès au quasi-quotidien ?
Comment j'ai fait ça et comment tout ça a commencé ? Eh bien, j'avais un manque sur les réseaux sociaux, je ressentais un manque plutôt. Je ne retrouvais pas le personnage archétypal que j'avais vu de Louis de Funès, que j'avais vu donc à travers ses films, je ne le retrouvais pas sur Internet. Ce qui était fait autour de Louis de Funès sur Internet était des sites Internet ou même certains comptes sur les réseaux sociaux, mais un peu dans un style hommage en fait à Louis de Funès. Et personne n'utilisait en fait l'image, le personnage archétypal qu'il avait utilisé.
Tant développé, d'accord.
Voilà, c'est ça. Et il y avait des choses qui étaient faites, par exemple, autour de Charlie Chaplin, où le personnage archétypal qui représente le cinéma muet, qui est Charlie Chaplin.
C'est ça. Je dirais même plus Charlot, pour le coup.
Voilà, plus Charlot que Charlie. Et pareil, par exemple, pour un autre personnage archétypal, qui est Albert Einstein, le MIT.
D'accord.
Utilise justement le personnage archétypal qui représente la science à lui tout seul.
La quintessence.
Voilà, c'est ça. Et j'ai voulu faire quelque chose un peu comme ça avec Louis de Funès.
D'accord.
Le représenter en quelque sorte le français archétypal.
Dans toute sa splendeur.
Voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai moins voulu parler de l'homme, parce que c'était déjà fait en fait.
Bien sûr.
L'homme qui est exceptionnel également, par ailleurs.
Et plus de l'acteur, et plus du comédien.
Voilà, plus du comédien et surtout de ce personnage, dont certains lui ont reproché de jouer tout le temps le même personnage, mais c'est ça qui lui vaut aujourd'hui sa survie.
C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres, et les riches, très riches.
C'est une rassurance, on sait qui est le Louis de Funès des films.
Ouais.
Et donc du coup, j'ai utilisé ce personnage-là pour le faire réagir à l'actualité, même pour le confronter à d'autres acteurs de notre époque, donc pour faire des montages, pour faire des mash-ups.
Tu peux nous prendre un exemple concret pour que les gens comprennent bien quand tu parles, par exemple, effectivement, d'une confrontation à un autre acteur ?
Sur le moment, ça ne me revient pas.
Est-ce que, par exemple, tu l'as déjà confronté ? On va prendre un autre génie du comique qui lui ressemble tant physiquement que dans les personnages riches et désagréables, Christian Clavier. L'as-tu déjà confronté à Christian Clavier ?
Non.
Enfin, en tout cas, un personnage de Christian Clavier.
Non, je ne l'ai pas fait encore, mais du coup, là, tu me donnes une idée.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Que monsieur est peut-être un peu raciste.
Raciste ? Moi, raciste ! Salomon, raciste !
Ça veut dire que Louis n'a pas rencontré Claude Verneuil.
Non.
Raciste ? Moi ? Mais je suis républicain et gaulliste comme l'était mon père. Non mais je suis calme et je n'accepte pas qu'on me traite de raciste.
Et donc du coup, je vais sûrement le faire.
Ah bah merci. Je suis content.
Je vais sûrement faire...
Une petite dédicace,
voilà,
hein.
Voilà, c'est ça.
C'est gentil. Avoue que la rencontre serait sans doute savoureuse.
Ah bah oui, non mais tout à fait.
Seulement un César d'honneur en 1980 et une rétrospective à la Cinémathèque française en 2021. Ne penses-tu pas tout comme moi que le cinéma manque cruellement de discernement, parfois ?
Je pense que le genre comique a toujours été un peu snobé par ceux qui se font juges du cinéma.
C'est dingue ! Mais à quoi c'est dû ? À quoi c'est dû quand on voit les entrées, l'affection du public ? À quoi c'est dû ? Et puis surtout, la difficulté de faire rire ?
Bah probablement, justement par ces mêmes juges qui doivent considérer, j'imagine, que le rire...
Que c'est un art mineur.
Voilà, et que le rire n'est pas assez classe.
Oh. Bon, et bien au revoir, cher ami.
Au revoir, madame la baronne.
Ouais, que seul le drame prévaut, quoi.
Voilà, c'est ça. Mais finalement, en fin de course, presque 40 ans après sa mort, Louis de Funès a réussi à faire rire de manière intergénérationnelle et est toujours aussi vivant aujourd'hui.
Le rire, on en aura toujours besoin. C'est ce qu'aimait à dire Louis de Funès.
J'accorde pas tant d'importance que ça à la reconnaissance du métier par le métier. Je pense que la vraie reconnaissance, c'est le public et surtout la survie au travers des générations fait que...
C'est clair.
Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Louis de Funès est indiscutable là-dessus.
Quand on connaît son parcours, je pense que c'est surtout par rapport à la souffrance sociale d'où il revenait, je crois qu'il a quand même plutôt mal vécu cette reconnaissance tardive, quoi. C'est-à-dire que mine de rien, on peut dire ce qu'on veut, mais de temps en temps, être reconnu par ses pairs, ça doit faire du bien.
When they called me and they said you will give the award to Louis de Funès, I said,
formidable.
En tant qu'homme, en tant qu'acteur, totalement, je pense que c'est quelque chose qui, quelque part, devait lui manquer. Mais pour le public, ça n'a pas d'importance, quoi. Que Louis de Funès était
snobé jusqu'au bout ou non.
Voilà, était snobé ou pas, ça aurait absolument rien changé par rapport à la vision du public.
Et puis, concernant la Cinémathèque, quand même, à la rigueur, les Césars, je veux bien. Mais enfin, 2021 à la rétrospective, qui d'ailleurs, en plus, ne coïncidait à rien par rapport à son année de naissance ou à l'année de sa disparition. Pourquoi seulement 2021 ?
Louis de Funès, notre trésor national, doit faire l'objet d'une exposition l'année prochaine à la Cinémathèque française.
Il me semble que le directeur de la Cinémathèque avait changé récemment.
Ah ben voilà, c'est une question d'homme.
Voilà, c'est ça. Et donc, il suffit qu'ensuite on tombe sur quelqu'un qui a aussi été bercé par les films de Louis de Funès.
Exact, ça a du bon.
On propose, bah, pourquoi pas Louis de Funès cette fois-ci. Et ça, pour le coup, il le mérite, parce que vu ce qu'il a apporté au cinéma français, à la reconnaissance du cinéma français à travers le monde, parce qu'on oublie aussi souvent cet aspect-là, le cinéma de Louis de Funès s'est beaucoup exporté, alors quasiment pas du tout dans le monde anglo-saxon, parce que la place était déjà prise, mais dans toute l'Europe, et en particulier dans toute l'Europe de l'Est, Louis de Funès était aussi populaire qu'il l'était en France.
Exactement.
Et même aujourd'hui encore, en Afrique, il est extrêmement populaire dans le monde de l'Afrique francophone.
C'est dingue. En Russie, c'est incroyable.
En Russie, avec la trilogie Fantomas, c'était un carton absolu.
Vous avez un cerveau, alors sachez vous en servir. Hein ? De quoi auriez-vous l'air si Fantomas était arrêté par un 00 quelconque ?
Tu te doutes bien qu'on ne pouvait pas avoir un expert S. Louis de Funès avec nous aujourd'hui sans faire le tour de son palmarès de Louis. Donc, tout en nous expliquant pourquoi La Grande Vadrouille est ton Louis de Funès favori, pourrais-tu nous en livrer ton top 5 immuable, soit les 4 suivants ?
Premièrement, en fait, objectivement, La Grande Vadrouille, c'est un chef-d'œuvre.
C'est clair.
Contrairement à d'autres films, comme on le disait précédemment, Louis de Funès est obligé de tenir le film à bout de bras parce que le scénario est léger ou des fois le casting n'est pas forcément le meilleur. Là, dans La Grande Vadrouille, il est dans un fauteuil. La réalisation, elle est impeccable. L'entièreté du casting est exceptionnelle. Le scénario
parfait,
a quelque chose à raconter, pour le coup.
Et il a son binôme.
Mais attendez-moi, bon sang !
Mais dépêchez-vous !
Eh ben, j'ai les pieds gonflés, là !
Les pieds gonflés !
C'est ça, c'est un chef-d'œuvre absolu pour moi. Mais le fait que le film ait été tourné aussi en partie dans ma région, étant natif de Beaune...
Ceci explique cela.
Bah, cela fait que La Grande Vadrouille est obligée d'être à la première place de mon top 5.
C'est génial.
En deuxième position, je place Ni vu ni connu, qui pour moi est le chef-d'œuvre d'Yves Robert, clairement.
Faudrait que je le revoie, tu vois, c'est incroyable.
Malheureusement, est quasiment jamais rediffusé à la télévision.
Oui, j'ai peut-être droit d'avoir acheté moi un rôle, c'est que je suis innocent.
Ah non.
Alors on le trouve sur des plateformes, je crois qu'il est par exemple sur Amazon Prime.
D'accord.
Mais à la télé, de souvenir, sur ces 10 dernières années, il n'a pas été diffusé.
Pas une rediff, d'accord.
Alors effectivement, c'est un film en noir et blanc, mais...
Oui, comme pas mal de Louis.
Voilà, comme pas mal de Louis. Et vu là aussi la qualité et ce que ça dit aussi même culturellement sur la culture française, alors une culture toujours un peu fantasmée dans les films, mais je comprends même pas qu'une chaîne comme Arte ne se risque pas à le diffuser.
D'accord.
Pour moi, ni vu ni connu, je le place en deuxième.
Et en plus, un Yves Robert quand même, d'accord. Donc, c'est ton numéro 2. En 3.
En troisième place, du coup, j'ai un peu honte de dire que c'est La Soupe aux Choux.
Mais non, je veux pas te culpabiliser, tu rigoles. Au contraire, si ça se trouve, c'est moi qui suis passé à côté de quelque chose. Donc La Soupe aux Choux.
Ça reste quand même le Louis de Funès préféré des enfants.
Ça, c'est de La Soupe aux Choux. De la vraie, faite avec mes choux à moi.
Tu me confirmes que c'est également un Jean Giraud, hein, il me semble.
Voilà, c'est ça, c'est aussi un Jean Giraud.
Leur dernière collaboration, voilà.
Je suis même presque obligé de dire que pour moi, c'est le chef-d'œuvre de Jean Giraud. Là où Jean Giraud, normalement, est un peu léger sur les scénarios, alors même si c'est pas lui qui écrit les scénarios.
Oui, oui, bien sûr. Mais...
Ça couple souvent avec des gens qui écrivent des scénarios souvent un peu légers. Là, pour le coup, La Soupe aux Choux est tirée du livre de René Fallet, un grand livre.
Grand auteur, ouais.
Ils ont pu se baser sur quelque chose de plus solide et du coup de raconter cette fable. Le fait qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture dans ce film fait que à chaque fois que je le revois, j'ai l'impression de le redécouvrir.
D'accord.
Une histoire aussi un peu personnelle avec ce film parce que ces deux personnages vieillissants, buveurs de pinard, j'ai aussi connu dans ma vie personnelle des gens, des grands-oncles qui étaient un peu comme ça, qui m'ont toujours fait rire.
Okay.
Et qui étaient comme ça aussi, deux anciens gars sortis d'une toute autre époque et qui passaient un peu leur journée à enchaîner les canons de rouge.
Retournez.
Je retrouve presque de la famille dans ce film.
Cette filiation, d'accord.
Je suis obligé de le mettre en troisième.
Ceci pouvant d'ailleurs expliquer cela.
Voilà, c'est ça, ouais, ouais. Ensuite, en quatrième, Bah, je mets le gendarme de Saint-Tropez.
Sans doute le meilleur des six, d'ailleurs.
Voilà. En fait, son personnage, Ludovic Cruchot, parce qu'au-delà des films en lui-même...
Cruchot.
C'est probablement le costume le plus emblématique de Louis de Funès.
Ah, ça, c'est clair. Maréchal des logis-chefs.
Chef ! Chef ! Chef ! Chef ! Adjudant chef ! Adjudant chef ! Adjudant chef ! Le chef !
Il a réussi, en fait, à être l'archétype du gendarme improbable. Même la gendarmerie a fini par épouser ce personnage et en faire un personnage qui plaît aussi aux gendarmes eux-mêmes. C'est ça aussi le talent de Louis de Funès. Il n'est pas dans la moquerie, en fait. Il se moque avant tout de lui-même. En fait.
Ouais, c'est ça, exactement.
Et c'est ça qui fait que même si on est en quelque sorte, entre guillemets, un peu la cible, on ne peut pas y avoir d'animosité pour Louis de Funès.
Oh, bien sûr.
Donc voilà. Et en cinquième position, je mets le petit baigneur.
Oh et les branquignoles.
Parce que Louis de Funès, il n'est jamais aussi bon que lorsqu'il joue du burlesque.
C'est clair.
Et là, avec Robert Derry...
Et Colette Brosset, ouais.
Et Colette Brosset, dans ce film, ça n'arrête pas, c'est que des successions de séquences burlesques.
Ah ouais, c'est terrible, hein. Et en même temps, il est victime, hein, dans Le Petit Baigneur. Hein.
Ah oui, c'est ça, il est pas mal victime. Il essaye d'embrouiller pour réessayer de décrocher le contrat du Petit Baigneur.
Viens, allez-vous le faire construire ailleurs, votre petite brève. C'est de ma grand.
La scène du phare est anthologique, hein.
Avec le rire exceptionnel de Pierre Tornade.
Ah, il se fout bien de sa gueule, hein, ça c'est clair. J'ai envie de t'entendre nous citer encore un petit De Funès supplémentaire.
Eh ben écoute, je vais mettre Pouic Pouic à ce moment-là.
Oh, c'est gentil. Enfin, tu le fais pas pour moi, mais...
Non, je le fais pas pour toi. Oh, forcément, vu que c'était le film préféré de mon père, je l'ai beaucoup vu. Dans ce film, Louis de Funès est à son meilleur niveau.
Laissez cette bestiole et écoutez-moi. Ah,
ne me brusquez pas, Léo. Enfin, je sais très bien que ma fille n'est pas mariée, vous l'aurez dit.
Alors justement, elle l'est.
Naya et moi tenons sincèrement à te remercier grandement pour cette première partie d'interview. Mmh. Vraiment, merci pour cet éclairage sur l'œuvre gigantesque du grand Louis de Funès. Il suffit tout simplement de te googler, puisqu'en fait, tu es sur les principaux réseaux sociaux.
Exactement. Il suffit juste de taper « Just Louis de Funès » sur Google. Tout va apparaître dans les premières requêtes.
Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ou serais-tu susceptible de regarder facilement?
Alors sur cette question, il n'y a pas du tout d'hésitation, c'est Malcolm. Parce que comme pour les films de Louis de Funès, je peux avoir regardé 30 fois le même épisode de Malcolm, je continue d'en rire.
D'accord, c'est très diffus pour moi, mais n'était-ce pas un jeune homme, un adolescent, Malcolm?
Dans la version américaine, c'est Malcolm in the Middle.
Ok.
Que la série s'étale sur 7 saisons.
Et au départ, il est jeune, il me semble.
Et donc au départ, c'est même CM1, CM2, cet âge-là, quoi, il a 10 ans.
D'accord. Tu peux nous rappeler l'acteur lead, comme on dit?
Le lead, c'est Frankie Muniz.
Ok.
J'exige une réponse immédiate. Qui a osé faire ça?
Malcolm, c'est lui.
Riz, c'est...
J'ai rien fait du tout.
J'ai rien fait non plus.
Surtout, celui qu'on peut saluer, parce que pour moi, il tient la série, enfin pas sur ses épaules, parce que tout est bon dans cette série, mais il est la clé de voûte de la série, c'est Bryan Cranston.
Ok.
Dans le rôle de Hal, du père de la fratrie.
D'accord.
C'est une fratrie, en fait, qui font en fait des bêtises, et c'est pour ça que les jeunes aiment tant cette série.
Alors j'en déduis que si le titre original c'est Malcolm in the Middle, il doit être le deuxième de la fratrie.
C'est ça. Alors pour être exact, il est le troisième, parce que le plus grand a été envoyé à l'école militaire, et donc passe le plus clair des saisons dans cette école militaire.
Oh, d'accord.
Mais oui, il est au milieu. Au cours des 6 saisons, ils ont un autre fils. Donc, il reste au milieu, en fait.
Ça se passe dans quelle ville des États-Unis?
La ville, en fait, n'est jamais vraiment citée. Il me semble que ça a été tourné sur Los Angeles.
D'accord. Comme pas mal de sitcoms de l'époque.
La maison existe vraiment. Alors, elle a été complètement transformée. Donc, les fans ne s'y reconnaissent plus du tout. Et j'ai regardé Breaking Bad à cause de ça. Ouais. C'est-à-dire que j'ai commencé à regarder Breaking Bad juste parce que j'avais une confiance totale au génie de Bryan Cranston.
Ok.
Généralement, les grands comiques, c'est ce que disait Louis de Funès, est capable de faire du dramatique.
Même question, mon cher Seb, pour les dessins animés.
Alors, celui que je regarde encore aujourd'hui, c'est South Park.
Ah bah tiens, tu es le premier à nous en parler. Je suis plus The Simpsons, mais South Park, mais c'est quelque chose, hein.
Là, je viens de finir, il y a 2 mois, la 26e saison.
Ouais.
C'était la dernière qui est sortie sur les mois de février et mars. Et même après 26 saisons, ça faiblit pas, en fait.
Papa, combien t'as dépensé pour ce truc-là?
$6,000.
Papa, tu devrais pas dépenser l'argent de ta retraite. Tu ferais mieux de le garder pour quand tu vas mourir. C'est notre argent.
Beaucoup de séries ou de dessins animés qui ont existé depuis longtemps, parfois faiblissent.
C'est ça.
Je pense que ça a été le cas des Simpsons. Il y a eu une période un peu plus faiblarde. Probablement, ils ont un peu plus de mal
à se renouveler scénaristiquement. Ouais, ouais.
Alors que South Park, c'est vraiment l'effet que ça fait, c'est que chaque saison est meilleure que la précédente.
J'ai eu un copain qui travaillait de super à son âme, que tu as dû connaître en termes de doublage, puisqu'il jouait Satan, c'était Jean-Michel Martial.
Ah, ok. Les deux créateurs, en s'enrichissant, se sont pas laissés aller à se dire on va jouer la facilité et plus vraiment aller au carton.
C'est génial.
Ils continuent d'être plus trash que jamais, j'ai presque envie de dire.
Quel animateur kiffes-tu le plus actuellement ou as-tu le plus kiffé par le passé?
c'est Vincent Lagaffe. Et surtout à l'époque du Big Deal.
D'accord.
Ça, c'était vraiment un rendez-vous qui, après les cours, donc en début de soirée, je ne loupais jamais. Bill et Vincent Lagaffe.
Ça va, Bill ?
Ça va, Vincent. Je voudrais faire une déclaration très importante.
À qui sont destinées ces fleurs ?
Beaucoup pour l'extraterrestre. On était à la fin des années 90.
C'est ça, je crois que ça a commencé en 98 exactement.
Et donc du coup, c'était quand même très novateur d'avoir comme ça un personnage qui interagit.
Oui, c'est ça. Enfin, c'était déjà du motion capture.
Mais voilà, c'est ça. Fin des années 90, c'était vraiment proposer quelque chose de nouveau à la télévision française. Puis Lagaffe, c'est tellement un animateur naturel, c'est la détente, ouais, c'est ça. Et puis il est vraiment humain.
Il donne vie.
Ouais, ouais, c'est ça.
Un journal télévisé ou un présentateur ou une présentatrice de journal télévisé favori ?
Laurent Delahousse.
D'accord.
Pourquoi ? Parce qu'en fait, je sais que c'est un admirateur de Louis de Funès. Parce que j'ai souvent remarqué qu'il consacrait des sujets, ou parfois même des émissions spéciales à Louis de Funès.
Eh oui, comme un jour un destin.
Voilà, c'est ça.
Louis de Funès a relevé le défi, en se hissant à la hauteur du talent de ses partenaires. À 40 ans passés, le comédien se sent enfin reconnu.
Je ne me rappelle pas du nom exact, mais je sais qu'il a une émission le samedi et le dimanche.
20h30 le samedi ou 20h30 le dimanche.
On jette un coup d'œil sur les coups de cœur de 20h30.
Ouais, c'est ça. Et souvent, il a consacré des petits sujets à Louis de Funès, donc je suis à peu près sûr qu'il en est un admirateur. Donc comme il fait partie de la team Louis, bah, je dis Laurent Delahousse.
Et enfin, mon cher Sébastien, tout genre confondu, quel est le nom de ton programme favori de tous les temps ?
C'est le Morning Live de Michael Youn. Il n'y a pas débat pour moi. Ça a duré assez peu de temps, ça a duré 3 ans.
Enfin, ça a duré 3 ans dans son cas.
Ouais, ouais, dans son cas.
Un nouvel événement maintenant avec l'inauguration du Morning Live.
Après, t'as décroché.
Voilà, j'ai décroché. Même si la version avec Hanouna était pas mauvaise.
Si vous vous réveillez, vous êtes dans le Morning Live, il est 7h.
Il a ce côté aussi un peu délirant, mais Michael Youn a créé vraiment un ovni télévisuel.
Ah, il a été unique.
À cette époque-là, en fait, j'étais au collège. C'était de 7h à 9h.
Tu vas pas t'en tirer comme ça. Quand on parle de son émission favorite de tous les temps et que c'est le Morning Live, on peut pas se contenter de me dire c'était de 7h à 9h. Non, 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 non. Je t'écoute.
Morning Live de 7h à 9h. L'émission qui réveille tes voisins.
Morning Live de 7h à 9h. L'émission qui réveille tes voisins. Voisins.
C'était ça.
Tu t'en es bien sorti. Que de bons souvenirs. Sébastien Thérault, merci d'avoir répondu aux questions de DLP.
Bah, c'est avec plaisir. Je vous remercie, Naya et toi. Merci surtout pour Louis de Funès. J'ai noté que vous consacrez un bon nombre d'émissions à Louis de Funès, donc merci pour Louis.
Bienvenue dans Illustres Dieux Olympiques, votre nouvelle collection qui, bien qu'elle ne les idolâtre, célébrera les sportifs français d'outre-mer jusqu'à Paris 2024. Et en attendant la dernière avec le terrific Teddy Riner, le vendredi 26 juillet 2024, jour de la cérémonie d'ouverture, Illustre Dieux Olympiques numéro 4 accueille cette semaine une fine lame d'1m90 en provenance de Cayenne, s'escrimant à donner à ses adversaires la haine. S'il est à l'épée dans la vie, ce que Guy Williams lui fut pour Disney, ou ce qu'est au football Franck Ribéry, il semble posséder la l'âme innée, j'ai nommé Ulrich Robbery.
Sachant qu'il y a les Jeux de Rio en ligne de mire, donc utiliser la proximité de la Guyane et du Brésil.
Que de titres amassés en 18 ans, depuis sa médaille par équipe de champion du monde d'épée en 2005. Licencié du Levallois Sporting Club, l'épéiste guyanais fait honneur à celui-ci, en quelque circonstance que ce soit. Championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde et évidemment Jeux Olympiques, aucun titre n'échappe à Ulrich Robbery depuis bientôt 2 décennies, bien décidé à réitérer à Paris 2024 l'exploit de Pékin 2008, cette fois peut-être en individuel. Car le champion du monde à l'épée individuelle 2014 est également un immense partageur de sensations et de victoires.
Champion du monde, Ulrich Robbery, l'épéiste français, a réussi un parcours tout bonnement parfait aujourd'hui lors des championnats du monde d'escrime à Kazan, en Russie.
Comme ce fameux jour de gloire olympique vécu donc à Pékin 2008, où il rafla avec ses partenaires Fabrice et Jérôme Janet le plus précieux des métaux. Alors, puisque Ulrich Robbery rime avec Paris, souhaitons-lui l'an prochain le doublé olympique, individuel et par équipe, dans un Paris 2024, on ne peut plus hip.
Je la porte jamais sur moi, là on me l'a demandé, mais sinon elle reste à la maison. Donc faut venir chez moi pour la voir en fait.
La semaine prochaine, dans Illustres Dieux Olympiques, la championne tahitienne de taekwondo, Anne-Caroline Graff.
Now give me a beat. Come on.
Que seraient les tubes de l'été sans leurs vidéoclips ou leurs scopitones ? Ainsi, de tout temps, les hits de l'été auront-ils aussi été les tubes de télé ? Et cette semaine, faisons un bond temporel de plus de 45 ans, avec la cinquième et dernière chanson française en date à avoir jamais remporté le concours de l'Eurovision.
Un vainqueur et 5 déçus. Numéro 3, l'oiseau et l'enfant.
Marie Myriam.
Je n'avais guère que 4 ans et demi ce fameux été 1977 et n'ai donc pu participer de l'effervescence générale autour de la victoire de la jeune Marie Myriam à Londres avec le titre pacifique ô combien symbolique aujourd'hui encore, l'oiseau et l'enfant.
Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme
cette dernière avait ainsi 19 ans lorsqu'elle défendit avec ferveur les chances françaises avec ce titre écrit par Joseph Graciano alias Joe Gracie et composé par Jean-Paul Carra. Tube qui, 46 ans après sa sortie et au vu de l'état géopolitique de notre planète, est hélas plus que jamais d'actualité en véritable hymne à l'amour et à la paix. Avec ses plus d'un million de copies écoulées et son disque d'or certifié, Marie Myriam a durablement marqué l'histoire de la chanson française indépendamment du concours, dont nous demeurons cependant fiers du fait qu'elle l'a remporté, forte de ses 136 points.
Ladies and gentlemen, the winner of the Eurovision Song Contest for 1977 is France.
Allez, on s'écoute quelques secondes de L'oiseau et l'enfant, tube de télé 1977. La semaine prochaine, dans les tubes de télé, le hit brésilien de Chico et Roberta, Frenchy a Frenchy. Et l'info été de la semaine concerne la continuité dans la nouveauté pour France 2 et la nouveauté dans la continuité pour TF1. Nous vous avancions ici même, il y a quelques semaines, les noms probables de Sarah de Padua ou de Bruno Guillon aux fins de succession à la géniale Laurence Boccolini aux commandes de Tout le monde veut prendre sa place. Eh bien, c'est finalement l'animateur Jarry, je ris, qui aura été retenu et qui, dès le samedi 5 août prochain, apparaîtra en lieu et place d'un maillon fort affaibli et non fort affaibli. Pour ce qui est du nouveau rendez-vous de rencontre de la tour de Boulogne-Billancourt, 8 célibataires inscrits par leurs propres enfants, majeurs, 100 ans, retrouveront Hélène Manarino le jeudi 3 août prochain dans « Ma mère, ton père, l'amour et moi ». Vous l'aurez compris, de plus en plus innovantes et captivantes, nos chères chaînes se déchaînent en termes de décisions et de créations édifiantes qui ne manqueront certainement d'être sanctionnées par audience à la hauteur de leur imagination débordante et lénifiante.
Dieu mandé le programme.
Hors changement, DLP Vacances vous suggère ce dimanche 30 dès 21h10 sur TF1, le Bond numéro 20 réalisé par Leet Mahoney meurt un autre jour. Quatrième et dernière mission officielle pour Pierce Brosnan, ayant ici pour antagoniste Rick Yoon, et pour James Bond Girls, Halle Berry et Rosamund Pike. Sans oublier le petit rôle et la bombe EDM, Electronic Dance Music, de Madonna. Et ce vendredi 4 août, sur France 3, 300 cœurs fêtent leurs 10 ans. D'Angoon à Patrick Bruel, de Chimène Badi à Roberto Alagna, le meilleur selon moi depuis Pavarotti, bien des artistes parmi les 200 déjà reçus, seront de la fête aux côtés de Vincent Niclot pour marquer un tel événement après la revisite de déjà près de 600 chansons en 40 rendez-vous. Petit clin d'œil enfin au dernier concert de Paris en date, diffusé sur France 2 le vendredi 14 juillet dernier. C'en était le 10e anniversaire, toujours aussi magnifiquement présenté, que dis-je, compté, par Stéphane Bern et ses inénarrables et so hip chaussures tricolores.
Toujours ces petites paires de chaussures, c'est votre signature, dites-moi tout.
C'est ma signature le 14 juillet, je porte la bannière tricolore au pied, mais avec le cœur aussi.
Après le cérémonial politique de rigueur, entre la mairesse d'un Paris 2024 que l'on espère sans rat, Anne Hidalgo, et l'actif président de ce dernier, Tony Estanguet, place à l'art lyrique dans toute sa splendeur mythique. Entre le Grand Orchestre National de France et le chœur et la maîtrise de Radio France, placé sous la baguette et la direction du chef Christian Macellaru, les plus grands airs du répertoire comblèrent de bonheur les mélomanes, de Handel à Bizet, en passant par l'ouverture du concert avec mon air favori, le « Les Undorma », extrait du Turandot de Puccini. Après La Liberté en 2021 et L'Égalité en 2022, le concert de Paris 2023 fut placé sous les auspices de La Fraternité. Pretty Yande, Francesco De Muro, Stéphanie Doustrac, Ludovic Tézier, Wilde Frang, Daniil Trifonov, Marie-Laure Garnier, excusez du peu. Soprano, baryton Martin, mezzo-soprano, ténor et autres pianistes et violonistes, français et internationaux mêlèrent leurs voix et leurs talents au service du grandiose, avec un final en apothéose entre la toujours aussi vibrante Ode à la joie et une Marseillaise sublimée par la voix lead de la soprano guyanaise Marie-Laure Garnier. Ma quasi-cécité n'ayant pu me permettre de profiter du feu d'artifice en bouquet final, j'aurais observé qu'il était cette année dédié aux Outre-mer, sur une programmation où Zouk Machine ou Jocelyne Béroir le disputaient à Malavoie et à Henri Salvador. Nous fûmes ce soir-là 3 262 000 téléspectateurs pour 24,3 de part d'audience, source Mediamat Médiamétrie, à avoir apprécié cette année encore la grande musique honorée par le service public au cours d'une superbe nuit philharmonique s'étant déroulée sans aucun hic. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ces héros. Et comme le chantait merveilleusement Andrea Fetti dans notre regretté Club Dorothée qui nous accompagnera tout l'été. Joyeux anniversaire, heureux anniversaire, tous nos vœux sont sincères pour ton anniversaire. Heureux anniversaire ce lundi 24, Axel Lafont. Celle qui, depuis 18 ans, a en elle la folie du spectacle, depuis 27 artistiquement, à la tâche ne renacle. Ce mardi 25, Jacques Legros. Quand bien même derrière l'écran ne fut du goût de tous, fort de ses 40 ans au cœur des médias, ses coups de gueule y poussent. Pierre Sled, 65 fois merci pour l'esprit champion, dont de Paris à Rome vous faites preuve depuis 38 ans à la télévision. Et Étienne Lénart, bien au-delà de son service enquête ou d'un œil sur la planète, de France 2 depuis bientôt 30 ans, vous êtes un atout maître, c'est net. Ce mercredi 26, Kevin Spacey, Sexual Suspect, Principal Target. Et Alice Taglioni, enfoirée aux 20 années de carrière artistique, les fantasmes qu'elle pourrait susciter ne sauraient obérer réel talent artistique. Ce jeudi 27, Laurent Bignolas, lui qui obtint en 2000 le 7 d'or de la meilleure émission de découverte, d'aventure et d'évasion, peut aujourd'hui se targuer d'une carrière de 43 ans en télévision. Et Ness Boubekri, il y a 20 ans et durant 3 saisons et demie, Pot of the Tops. Ce vendredi 28, Francis Weber, dans le tourbillon de la filmo de l'octogénial californien, découillon des idiots et surtout formidable comédien. Alain Duverne, 80 fois merci dans ce tumulte télévisuel de vrai mariole de nous avoir offert 30 années durant cette virgule irréelle dans les deux sens du terme que furent les regrettés guignols. Et Jean-Claude Dacier, encore parmi les valeurs actuelles d'un audiovisuel vicié aux commandes de l'info de LCI et de TF1 comme à la tête de l'OM, conserva toujours des nerfs. Dacier. Ce samedi 29, Alexandra Paul, 60 fois merci d'être toujours allé de vos missions jusqu'au bout, naïade anti-noyade d'Alerte à Malibu. Et Anne-Elisabeth Babette Lemoine, sur France 5 tous les soirs, fraîcheur et bonne humeur, riche d'une dream team, miroir de votre contagieux air rieur. Et ce dimanche 30, Lisa Kudrow, 60 fois merci d'être l'une de nos friends à vie, ce dont même les nouvelles générations sont aujourd'hui encore ravies. Laurie Tillman, depuis 5 ans avec Garou et douée d'un charme unique, est notre Miss France 2, fête de la musique. Et Simon Baker, quand danse le limbo à cœur ouvert, est aussi beau que Patrick Jane au mental d'enfer. Une pensée enfin pour les cultissimes Claude Sarraute, Anne-Marie Pesson et Thierry Gilardi, qui étaient nés respectivement les 24 juillet 1927 et 1935 et le 26 juillet 1958. Let's do it. La semaine prochaine, Philippe Stolz, intervenant spécialisé et enseignant en communication, producteur avisé et passionné par la transmission, a l'appétence pour le 7e art aiguisé et roi à Solidays de la vidéocaptation, sera l'invité de DLP Vacances. Et nous consacrerons notre dossier Sea, Sex and Fun à la trilogie Les Bronzés, aussi splendide que sa troupe aux 50 ans d'amitié. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Diomandé le Programme, Drucker à l'ouvrage, Dallo et DLP Vacances sur Ocha, A-U-S-H-A ou votre plateforme de podcast favorite et abonnez-vous à nos Facebook et Instagram Diomandé le Programme et Drucker à l'ouvrage. DLP Vacances est produit par Crimson Corp Burbank, Californie et intégralement réalisé par Naya Diamond. Notre pacifique océan de reconnaissance à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Katia Martin, Infocom Web Service, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Merci à Do, Azoulay, Berda et TF1 pour l'emprunt du thème de leur générique et à Alexandre Letraine pour son adaptation aussi magique que mythique. Bises de proches voisins de la centenaire Warner à Kate, Sheena et Ramzi Malouki ainsi qu'à Frédéric Dubuis et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Je suis David Diomandé, certes légalement aveugle depuis 2019, mais observant avec clairvoyance l'univers de son métier, riche d'autant de pros que de bluffs. Vive la 37e édition du Tour de la Martinique d'Aïeul Ronde, de ce dimanche 30 juillet au dimanche 6 août prochain. Et vive la télévision pour le meilleur de ses fous rires, pas vrai Gérard Lanvin?
Oui, c'est le retour du jeu. C'est horrible, c'est le retour du genre populaire.
DLP, 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 tout, 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 DLP vacances.
Chronozone, le temps immédiat.
Bonjour, c'est Philippe Stolz, producteur de télévision au cœur des médias depuis plus de 35 ans. J'ai mis à l'antenne des programmes qui sont toujours comme Le Dîner Presque Parfait, Pékin Express, Patron Incognito et Starac. Je suis très heureux de partager des souvenirs de cette période, mais pas seulement, de parler aussi d'avenir de la télévision et de partager avec vous des moments forts. Retrouvez-nous avec David et Naya vendredi 4 août dans DLP Vacances.
Merci d'avoir apprécié Diomandé le Programme avec les Roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.